niveau rotatif jambe gauche, clé du bras droit et j'immobilise, compris ? Bon, mise en situation, vous ?
Moi ?
Oui. Alors, scénario, un cambrioleur s'introduit chez vous en pleine nuit. Vous devez le neutraliser. Je fais le cambrioleur, allez-y.
Alors, pivot rotatif du bras droit.
Pour rester serein, confiez plutôt votre maison au professionnel Verisur. Pour une installation gratuite, appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verisur.fr.
Vous quittez le cours ?
Ah oui.
Vous êtes sûr ?
Ah oui, oui, Verisur.
Verisur par Securitas Direct, numéro 1 européen des alarmes télésurveillées.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vendredi dernier, le prix Nobel de la paix a été attribué au quartet d'organisation de la société civile tunisienne, responsable du dialogue national. L'occasion pour Franck Ferrand de se pencher aujourd'hui sur d'autres prix Nobel de la paix. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons évoquer quelques grandes figures nobélisées dans le passé, en compagnie d'André Caspi, mais ce que j'aimerais, c'est que nous tentions un essai de bilan de ce prix un peu particulier, l'un des plus médiatisés de ceux que décerne chaque année le comité suédois. Pour entrer en matière, je vous propose de suivre l'épopée d'un de ces prix Nobel, le leader polonais Lech Walesa.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Mathieu sur les origines de l'appellation Oncle Sam pour désigner les États-Unis.
Avec joie, à vrai dire, ce pourrait être une question pour André Caspi. L'explication, vous allez le voir, est amusante. Pour le moment, je vous emmène en Pologne au tout début des années 1980.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Certaines rencontres vous marquent plus que d'autres. Il y a quelques semaines, à l'occasion du 35e anniversaire des accords de Gdansk, l'ambassadeur de Pologne en France a reçu, dans les somptueux salons de l'hôtel de Monaco à Paris, celui qui fut prix Nobel de la paix et président de la République polonaise, mais surtout avant cela, celui qui fut l'âme du soulèvement populaire contre la chape de plomb soviétique, Lech Walesa. On prononce ainsi, hein, parce que ce n'est pas un S, on a tendance à dire en France Lech Walesa, mais il semblerait que ce soit bien Walesa. J'ai eu la chance de faire partie des invités à cette manifestation et je dois vous dire que, à l'heure où je vous parle, je suis toujours sous le choc ou tout au moins empreint de la certitude d'avoir vu un grand bonhomme. Je n'ai pas eu, hélas, la chance de pouvoir croiser des hommes d'État comme Winston Churchill ou le général de Gaulle, mais assurément, l'homme que nous avions devant nous l'autre soir est de cette trempe, une force, une sérénité, une liberté de ton et de parole, un caractère, tout simplement, qui tranche de façon criante avec le commun du moment. La façon patiente et presque amusée avec laquelle il envoyait ses phrases vigoureuses, comme ça par salve, pour laisser à l'interprète le temps de traduire, l'énergie qui déborde de son beau regard, la tenue solide, vaguement raide, de ce monsieur de 72 ans maintenant, tout cela m'a ébloui, je le reconnais sans embâge, et ce n'est pas sans émotion que je m'apprête à vous raconter maintenant son histoire qui nous amène au cœur de cette année 1980, cette année 1980, si dangereuse pour le régime communiste en Pologne, nous sommes un dimanche, le dimanche 31 août de cette année-là. Oui, on est tout à fait au nord de la Pologne, hein, sur la mer Baltique, à Gdansk, l'ancienne Danzig. On est au cœur là de la Pologne communiste. Il faut imaginer ce que peut être Gdansk à l'époque. Voilà ce qu'en dit Bernard Lecomte. Haute cheminée d'usine, docks hérissés de grues monstrueuses, ponts roulants enjambant des gares de triage, larges avenues de briques sillonnées de tramways, donc la fronde, la ville libre à l'indépendance sans cesse menacée, l'ancienne Danzig où fut tiré le 1er septembre 1939 le premier coup de feu de la Seconde Guerre mondiale. Il est 9h en ce dimanche matin, le soleil brille et comme c'est le cas depuis quelques jours, des milliers d'ouvriers, ils sont en bleu de chauffe, ils sont néanmoins accompagnés de leur famille, des milliers d'ouvriers participent à la messe quotidienne en plein air. On a installé un un hôtel de fortune au pied du portail numéro 2 des chantiers Lénine. Le portail en question, il faut l'imaginer, noyé sous les fleurs rouges et blanches aux couleurs immémoriales de la Pologne, mais aussi couvert d'images de la Vierge Noire de Częstochowa et bien sûr du nouveau souverain pontife polonais qui a été élu là 2 ans plus tôt, 1978, Karol Wojtyla, devenu le pape Jean-Paul II. Les ouvriers mettent un genou à terre, ils chantent des cantiques, il faut entendre, hein, il faut imaginer l'espace envahi de chants à la gloire de Dieu. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que les 17 000 ouvriers des chantiers de Lénine sont en grève depuis maintenant 15 jours. Alors évidemment, quand on dit ça en France en 2015, ça n'impressionne pas grand monde. Mais il faut imaginer ce que peut être une grève dans le régime communiste de l'époque. C'est tout simplement impensable. Les ouvriers de Gdansk protestent contre le renvoi sec d'une ouvrière uniquement parce qu'elle était militante des syndicats libres. C'est pas du tout la première fois que Gdansk est paralysé par les grèves. Le port a même été souvent le point de départ de manifestations ouvrières et les chantiers Lénine sont réputés pour être toujours à la pointe de ce genre de lutte. Généralement, la raison des protestations est toujours la même, c'est l'augmentation des prix des produits alimentaires. C'est en tout cas ce qui toujours met le feu aux poudres. Les premiers soulèvements datent de ce fameux printemps 1956. Vous savez, quand dans plusieurs pays du bloc de l'Est, en même temps, on a vu des soulèvements, on a vu des aspirations à plus de liberté. Il y a eu également les grandes grèves de 1970 et notamment cette manifestation réprimée dans le sang le 16 décembre 1970. Là, le bilan avait été terrible. 45 morts, 1165 blessés et ça selon les sources officielles. Selon les sources officielles qu'on ne peut pas taxer de complaisance. Parmi les meneurs de cette grève, un jeune homme d'à peine 27 ans, le fameux Lech Walesa. Il est né en 1943, Walesa, dans une Pologne qui à l'époque était bien sûr complètement sous la botte nazie. Il est né dans une modeste famille paysanne à Popovo, qui est un petit village de la Pologne profonde. Il a connu évidemment, comme sa famille et comme tous les Polonais de l'époque, la faim, la peur et on craint beaucoup la déportation. Plus tard, il va devenir ouvrier technicien et c'est à 24 ans qu'il est embauché au célèbre chantier Lénine de Gdansk. Il va rencontrer à peu près au même moment sa future épouse qui elle est vendeuse chez un fleuriste, elle s'appelle Miroslava. Lech a l'âme d'un leader syndical. Il faut imaginer un petit homme à la verve puissante et qui est bien sûr vite reconnu à la grosse moustache qui lui barre le visage et qu'il porte toujours tant d'années plus tard. Il a été marqué par cette fameuse tragédie du 16 décembre 1970 et notamment il a depuis décidé d'organiser chaque année, le 16 décembre, une cérémonie du souvenir devant ce fameux portail numéro 2 des chantiers Lénine. À une journaliste polonaise qui, plus tard, lui posera la question, il répondra « J'ai un drôle de caractère, vous savez. Quand je vois que personne n'a envie de bouger, moi j'y vais. » C'est être un chef, ça? Non. Seulement, les gens ont souvent du mal à se décider. Eh bien, moi, pas. C'est amusant parce qu'il a répété quasiment les mêmes mots l'autre soir à l'ambassade de Pologne. Évidemment, Walesa est repéré très vite par les hautes instances communistes polonaises. En 1976, au moment de nouvelles grèves, il est licencié tout simplement. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à fréquenter des intellectuels dissidents qui font partie du comité de défense des ouvriers, le KOR. Il participe à toutes sortes de réunions qui souvent se tiennent chez lui. Ça lui vaut pas mal de séjours en prison. Walesa, vous l'avez compris, est chômeur par la force des choses, d'une certaine manière. Alors il est aidé financièrement par des amis, par le syndicat clandestin, bien entendu, puis aussi par la paroisse. Il faut jamais oublier qu'il est catholique pratiquant, qu'il va tous les matins à la messe. C'est sans doute une des raisons de sa forte détermination. N'oublions jamais cet événement essentiel qui fait que Karol Wojtyla, le cardinal archevêque de Cracovie, en 1978, a été élu pape. Il est venu en Pologne en juin 79 et à tous ces ouvriers qui n'attendaient que cela, il a lancé son fameux appel, il a lâché son fameux cri « N'ayez pas peur ».
destinée d'un homme, un extrait de la bande originale du film L'Homme de Fer, film polonais qui avait reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes. C'était en 1981. Restez avec nous sur Europe 1 cet après-midi. Franck Ferrand vous parle des prix Nobel de la paix en général et de Lech Walesa en particulier.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Alors qu'aujourd'hui l'émission est consacrée au prix Nobel de la paix en général, Franck Ferrand, vous avez décidé de vous intéresser au parcours du chef d'État polonais Lech Walesa, qui en 79 a rencontré Jean-Paul II, on en parlait.
Oui, Jean-Paul II était venu en tout cas faire une grande messe, vous savez, il avait crié « N'ayez pas peur ». Et là, la messe est terminée, ou plutôt quand je dis la messe, c'est celle du 31 août 1980 bien entendu, il est 11h du matin et l'on voit que ça s'active dans les rangs de la presse étrangère, qui est là, qui assiste évidemment à toutes ces manifestations ouvrières dans une Pologne où ça n'est pas du tout l'habitude. Il faut vous dire qu'un homme vient d'arriver, il est pâle, il a les traits tirés. Qui est cet homme? Ça n'est autre que le vice-premier ministre Mieczysław Jagielski. Il est en place depuis à peu près une semaine, il a été chargé par le gouvernement à Varsovie de trouver une sortie de crise à la grève des chantiers navals. Il vient une nouvelle fois négocier avec Walesa, qui a été réintégré depuis quelques jours au chantier. Il vient essayer de parler aux grévistes qui, depuis 15 jours, je vous l'ai dit, se sont organisés en un comité de grève inter-entreprise des chantiers navals, qu'on appelle le MKS. Les négociations de la veille ont une nouvelle fois échoué. Il faut vous dire que les tractations sont très âpres. Walesa est là, il n'a pas l'intention de céder sur les fameux 21 points qu'il a écrits dans son cahier de revendications. Alors parmi les points en question, il y a la liberté syndicale, avec notamment la création d'un syndicat libre, la reconnaissance du droit de grève, l'abolition de la censure, vous imaginez, dans la Pologne communiste, la libération d'un certain nombre de détenus, la réintégration de personnes licenciées après les émeutes de 70 et 76, une hausse des salaires, etc., etc. Les négociations sont d'autant plus difficiles et qu'il faut faire vite pour le gouvernement, car là, les grèves de Gdansk sont en train de faire tache d'huile dans tout le pays. À Varsovie, les éboueurs, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus, etc. ont déjà arrêté le travail. Ça, il y a de quoi inquiéter l'appareil communiste qui a décidé de couper les communications téléphoniques entre Gdansk et le reste de la Pologne. Ça, c'était les méthodes radicales à l'époque. Pour ne pas qu'on puisse trop communiquer hors de ce qui apparaît comme un chaudron, eh bien, on coupe les communications téléphoniques. On a aussi coupé des têtes, si je puis dire. Le premier ministre polonais, notamment, a été limogé, mais aussi plusieurs hauts dignitaires du régime, le président des syndicats officiels, le chef de la propagande, le patron de la radio et de la télé, quand même. Néanmoins, dans les rangs des grévistes, on sent bien qu'il y a un malaise à Varsovie et que quelque chose est sans doute possible. Quelques heures plus tôt, un accord a pu être signé avec les grévistes de Czesin. Les négociations se poursuivent maintenant entre Walesa et le vice-premier ministre. On est dans une petite salle des chantiers Lénine. Soudain, les grévistes, des milliers d'hommes et de femmes, entendent, par le biais des haut-parleurs du chantier, malgré une sonorisation très défectueuse, ils entendent la lecture des 21 points de l'accord. Or, à chacun de ces points, le vice-premier ministre, Jagielski, dit « J'accepte, je signe ». Vous imaginez, ils n'en croient pas leurs oreilles. Ainsi est reconnu ce fameux syndicat indépendant, autonome, autogéré, qui va être le célèbre Solidarité, Solidarność, la garantie du droit de grève, l'abolition presque totale de la censure, la liberté d'expression, etc., etc. Même la semaine de travail de 5 jours, ça paraît complètement incroyable. Les 21 points sont comme ça énoncés l'un après l'autre et à chaque fois approuvé par le représentant du parti et de l'État. À midi et demi, tout est fin prêt pour la signature du communiqué final. Seulement, Lech Walesa et les délégués demandent une suspension d'au moins 20 minutes. En fait, le communiqué ne sera ratifié qu'à une condition, la promesse de libérer les fameux dissidents incarcérés. Ça coince, si je puis dire. C'est quand même très difficile. Il y a des négociations. On voit le vice-premier ministre Jagielski s'absenter. Longue conversation au téléphone. On le voit s'agiter. On ne sait pas exactement ce qu'il dit au téléphone. Visiblement, il est en train de parler avec les principaux responsables du régime. Et puis, il sort. Il est 15h. Il a reçu l'autorisation de signer. Et l'on peut dire que Walesa vient de remporter une victoire historique.
Au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, l'émission est consacrée au prix Nobel de la paix. Vous pouvez bien sûr réagir et poser vos questions à Franck Ferrand et son invité jusqu'à 15h. Ça se passe sur la page Facebook au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. À tout de suite.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Les prix Nobel de la paix sont à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 de façon générale, mais un en particulier, le chef de l'État polonais Lech Walesa, qui vient de remporter une bataille historique, Franck.
Il faut s'imaginer dans la grande salle de conférence des chantiers navals, des chantiers Lénine de Gdansk, des rangées de tables alignées perpendiculairement à une tribune, le vice-premier ministre Jagielski, qui est entré, juste derrière lui Lech Walesa, suivi de leur suite respective, pas un mot, pas un bruit. À leur gauche, il y a la statue de Lénine, qui est là, imperturbable, à côté de l'aigle polonais, qui domine la pièce, et puis un crucifix qui a été rajouté par les grévistes. Il est 16h35, ce 31 août 1980, et tout est prêt pour la signature. Quand je dis tout est prêt, le texte n'est pas prêt. Les secrétaires bénévoles ont encore besoin de quelques minutes. Alors, eh bien, en attendant, on passe au discours. Et c'est Walesa qui commence. « Chers amis, nous avons pensé durant toute la grève aux intérêts de la patrie et c'est à cela que nous penserons en reprenant le travail demain, 1er septembre. Avons-nous tout obtenu? Non. Mais nous avons obtenu beaucoup, tout ce qui était possible dans cette situation. Le reste, nous pourrons le gagner tous ensemble parce que nous avons maintenant notre syndicat. Nous avons lutté pour l'avoir, non seulement pour nous, mais pour tout le pays. Faisons tout pour préserver son indépendance. La grève est unie. » Vous imaginez les acclamations. Et puis, c'est le Premier ministre, le vice-premier ministre qui prend la parole. « Nous nous sommes attachés à comprendre à chaque instant ce que vous vouliez. Nous avons essayé de faire voir ce qu'il était possible de promettre et ce qui était irréaliste. J'approuve, Monsieur Walesa, d'avoir dit que nous avions parlé comme des Polonais doivent parler. Il n'y a ni gagnant ni perdant. L'essentiel est que nous soyons arrivés à cet accord. Il faut maintenant nous mettre au travail d'arrache-pied. Ce sera la meilleure preuve de notre patriotisme, de notre volonté de servir notre patrie socialiste, la Pologne populaire. » Les applaudissements fusent également, il faut le dire honnêtement. Et cette fois, ça y est, le texte est prêt, on va pouvoir le signer les 17h. Lech Walesa et Jagielski vont signer cet accord historique. Il faut imaginer les photographes, bien entendu, qui mitraillent les deux signataires de l'accord. Et notamment, on fait des gros plans sur l'énorme stylo gadget qu'a utilisé Lech Walesa. Comme un diable, un jeune gréviste bondit à ce moment-là. Il distribue aux membres de la commission gouvernementale un jeu de solidarité. C'est le bulletin clandestin du mouvement. Ce sera le journal du syndicat. La salle est debout pour entonner l'hymne national. L'ex-contestataire licencié pour agitation subversive et le super-ministre, si je puis dire, envoyé à la rescousse par un parti aux abois. Et ils sont là, tous les deux, réunis pour chanter à la gloire de la Pologne immortelle. Et dehors, dans la cour, tout autour des chantiers, partout, c'est un enthousiasme indescriptible. On rit, on pleure, on danse, on s'embrasse. Walesa est encensé comme un héros national. Qu'il vive 100 ans, crie-t-on. Ça rappelle la joie qu'on avait connue au moment de la visite du pape Jean-Paul II, justement, en 1979. Walesa est porté en triomphe, écrit Bernard Lecomte, et doit prendre à nouveau la parole. Des dizaines de milliers de gens, toute fatigue oubliée, lui font une ovation, à nouveau l'hymne national, à nouveau des cantiques. Discrètement, les représentants du gouvernement se sont éclipsés. Cette fête n'est pas pour eux. C'est une journée historique qui met fin à la plus longue grève de l'histoire de la Pologne populaire. Le 16 décembre, 3 mois et demi après la signature des accords de Gdansk et 10 ans jour pour jour après la mort de tant d'ouvriers tués par le pouvoir communiste, Walesa est aux côtés des plus hautes personnalités de l'Église, du parti. Une triple croix de 42 mètres de haut a été érigée par les ouvriers des chantiers navals. Elle est inaugurée. La cérémonie est suivie par des centaines de milliers de personnes. Le syndicat Solidarność est là, bien entendu. On a l'impression que c'est une ouverture extraordinaire dans cette histoire de la Pologne et une brèche aussi dans le bloc communiste qui obéit à Moscou et aux soviétiques. Et voilà qu'en décembre 1981, la loi martiale est décrétée par le général Jaruzelski. Lech Walesa va retourner en prison. Il y restera 11 mois alors que Solidarność est dissous par les autorités. C'est de nouveau la nuit, si je puis dire, qui s'étend sur la Pologne. Pas pour très longtemps cette fois, quoique... on attendait en 1982 le prix Nobel de la paix pour Walesa. En fait, il ne viendra pas ce prix Nobel, ou alors plus exactement, il viendra, mais l'année suivante, en 1983, un peu tard, diront certains. Bonjour André Caspi.
Bonjour.
Avec vous, ce n'est pas seulement de Walesa que nous allons parler, mais de tous ces prix Nobel de la paix, un grand nombre en tout cas, on n'a pas pu tous les répertorier.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Alors que le prix Nobel de la paix 2015 a salué le processus démocratique en Tunisie, vous avez décidé, Franck Ferrand, jusqu'à 15h de parler de ces prix Nobel de la paix avec votre invité André Caspi, professeur émérite à la Sorbonne et auteur notamment de Barack Obama, la grande désillusion, paru chez Plon.
Alors André Caspi, il faut dire d'ailleurs que votre Barack Obama, si je puis dire, est prix Nobel de la paix. Ça a surpris tout le monde à l'époque.
Ça a surpris tout le monde, y compris lui-même. Il a été en effet couronné en décembre 2009, quelques mois après avoir accédé au pouvoir. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il n'avait pas encore fait grand-chose, sinon qu'il avait tendu la main aux Iraniens, qu'il avait essayé en somme de marquer l'amitié que les États-Unis portent au monde musulman, qu'il avait tenté de résoudre le conflit israélo-palestinien, mais tout cela n'avait abouti à rien. Et au moment où il reçoit le prix Nobel de la paix, il est sur le point d'envoyer un renfort de 30 000 hommes en Afghanistan pour combattre contre les talibans. Alors, ce qui veut dire qu'il y a quand même une grande surprise de sa part, de la part de tout le monde, et en même temps...
C'est pas tellement un acte de paix. Enfin, ça dépend. En tout cas, ça dépend comment on conçoit la paix, après tout.
Oui, mais enfin, si on conçoit la paix
comme la guerre,
en envoyant 30 000 soldats, je dois dire que c'est une conception un peu étonnante.
Oui. Ben, justement.
Cela dit, il a fait une petite distinction, je précise au passage, c'est que pour lui, il y a des guerres justes et des guerres injustes.
Et voilà. C'est sans doute ce que pensent aussi les gens d'Oslo lorsqu'ils décident. On va voir comment, dans quelles circonstances, etc. dans un instant. Je reviens quand même de quelques mots sur Lech Walesa. À l'époque, donc en 1983, lorsqu'il est nommé prix Nobel de la paix, lui-même est évidemment surpris et surtout lui-même ne l'attendait plus, car l'année d'avant, il était encore en prison. On aurait pu le nommer prix Nobel de la paix alors qu'il était en prison. Ça aurait eu un écho et un impact considérable. C'est nettement moins le cas. En 83, il est sorti de prison en 83 lorsqu'il le reçoit. Hein.
Oui, mais en même temps, on peut dire que ce geste de la part du comité Nobel est quand même important. Cela veut dire que le prix Nobel prend parti contre Jaruzelski. Ça veut dire que le prix Nobel considère que l'action de Lech Walesa mérite cette récompense. Alors, ça ne fait pas partie du combat de Solidarność, puisque n'importe comment, Solidarność a gagné et va encore gagner davantage dans les années qui suivent. Mais cela montre de la part de ce comité Nobel la volonté d'encourager la démocratie dans le monde et tout particulièrement dans les pays totalitaires.
Alors justement, ce comité Nobel, qui le compose? Ça c'est quand même assez intéressant. Il faut dire qu'il y a de nombreux prix Nobel, on va peut-être pas revenir sur toute l'histoire des prix Nobel hein, et sur ceux qui ont fondé cette fondation Nobel, ce prix Nobel, pour se racheter en quelque sorte l'inventeur de la dynamite.
Parce que l'inventeur du prix Nobel, c'est Alfred Nobel.
Mais oui.
Et Alfred Nobel est en effet l'inventeur de la dynamite. Alors le premier prix Nobel remonte à 1901, ce qui veut dire que c'est juste à la veille de la Grande Guerre où la dynamite a tenu une place principale. Donc Nobel a voulu en somme se dédommager.
C'est ça.
Alors ça n'est pas limité au prix Nobel de la paix, parce que le prix Nobel de la paix est attribué en Norvège, mais tous les autres prix Nobel sont attribués en Suède, à Stockholm. Mm-hmm. Et cela s'explique par le fait que Avant 1914, la Suède et la Norvège ne formaient qu'un seul royaume.
Et voilà.
C'est après qu'il y a eu la séparation.
Alors, on comprend très bien un prix Nobel de physique, de chimie, etc., de tout ce qu'on peut imaginer, de médecine. C'est beaucoup plus étonnant, un prix Nobel de la paix, puisque là, on entre dans des considérations qui deviennent extrêmement subjectives.
Oui, et ben, qui ont pour but essentiellement, comme le nom l'indique, de favoriser ceux qui ont œuvrer pour la paix ou ceux qui recherchent la paix. Alors, ce prix Nobel...
Toujours dans l'esprit d'Alfred Nobel, là encore. On est bien dans la ligne de ce qu'il voulait faire.
Tout à fait. C'est d'ailleurs, le premier prix Nobel a été attribué à Henri Dunant, qui est le créateur de la Croix-Rouge. Oui. Donc, cela veut bien dire qu'il y a une volonté humaniste derrière cette décision d'Alfred Nobel. Et ce qu'on peut dire également, c'est que ce prix Nobel, puisque pour répondre à votre question, est attribué par un comité de 5 personnalités norvégiennes. C'est-à-dire des personnalités qui appartiennent au monde politique ou qui appartiennent au monde religieux, puisqu'il y a aussi l'évêque d'Oslo qui siège dans ce comité. Et ils se réunissent, ils reçoivent des propositions du monde entier, d'un certain nombre d'institutions, ils reçoivent des propositions des universitaires. Vous pouvez, Franck Ferrand, envoyer vos propositions.
Mais je le fais très régulièrement.
Mais, ça veut dire que ces propositions sont examinées et quelquefois, elles sont un peu étonnantes. Quand on sait, par exemple, 50 ans plus tard, parce que pendant 50 ans, c'est tenu secret, mais quand on sait que Hitler ou Staline ont fait l'objet de propositions, on reste sidéré, c'est le moins qu'on puisse dire. Je précise que ni Hitler ni Staline n'ont eu le prix Nobel de la paix.
Dieu merci, parce que là je pense que ça aurait été la fin du prix Nobel.
En revanche, des hommes dont on attendrait qu'ils soient couronnés ne l'ont pas été, par exemple Gandhi.
Et voilà.
Gandhi n'a pas eu le prix Nobel de la paix, alors que c'est véritablement l'incarnation du pacifisme, l'incarnation de la volonté d'établir la réconciliation entre les peuples.
Il y a bien une dimension politique derrière. On l'a vu d'ailleurs avec le cas de Lech Walesa, c'est très clair. Là, il y a une intervention dans le débat international, d'une certaine façon.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette intervention est reprise par les médias en général,
très largement,
et l'on considère que le prix Nobel de la paix est attribué en toute justice, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contestation possible.
Et alors, comme si c'était presque d'origine divine, un petit peu.
Oui, et bien alors, on arrive à quelquefois des attributions étonnantes. Par exemple, la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a reçu 4 fois le prix Nobel de la paix. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que les Nations Unies ont reçu 2 fois le prix Nobel de la paix. Ce qui me ravit, mais d'un autre côté, quelle est la fonction essentielle des Nations Unies si ce n'est d'établir la paix?
Oui, c'est comme...
Donc on peut s'étonner de la chose, d'autant plus que dans les années récentes, j'ai beaucoup de difficultés à admettre que les Nations Unies soient parvenues à établir la paix dans le monde.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout ça est quand même assez sujet à caution, il faut bien le dire. Alors, vous l'avez dit, il y a de plus en plus de groupes, d'institutions qui sont récompensées de façon collective. D'ailleurs, cette année, c'est pas tout à fait une institution, mais c'est le quartet tunisien de façon collective qui vient d'être récompensé, et non pas les personnes qui le composent.
En effet, c'est-à-dire que le prix Nobel de la paix peut être attribué à une personnalité ou il peut être attribué à une organisation.
Ça,
par exemple, j'ai cité les Nations Unies, j'ai cité la Croix-Rouge, mais je pourrais citer Médecins Sans Frontières, je pourrais citer le comité qui combat l'utilisation des mines antipersonnelles. Il y a comme cela toute une série d'organisations qui sont récompensées en tant qu'organisation. Alors, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une règle absolue pour définir les lauréats.
Un certain nombre de lauréats sont des dissidents. Ils le sont clairement. Ce sont des gens qui luttent contre la politique souvent oppressive du gouvernement qu'ils combattent. J'ai envie de dire, ce sont peut-être les plus consensuels, ceux qu'on accepte le plus volontiers.
Que nous acceptons
nous,
les plus volontiers.
Occidentaux, oui, voilà.
Il va de soi que certains de ces dissidents ne sont pas reconnus par leur propre gouvernement,
bien
puisqu'ils
sûr,
sont dissidents.
Et par définition.
Et on peut citer deux exemples. Un exemple assez ancien qui date des années 30, c'est un journaliste qui était pacifiste en Allemagne, et qui bien évidemment n'avait pas la bénédiction du gouvernement nazi,
Karl
Ossiewski. Et puis on peut citer également tout récemment, en 2010, un dissident chinois
bien sûr,
qui a reçu le prix Nobel, qui n'a pas pu venir jusqu'à Oslo et qui aujourd'hui encore n'est pas considéré par le gouvernement chinois comme pouvant recevoir le prix Nobel. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est une attitude de la part de ce comité norvégien qui est une attitude de contestation, de récompense de la dissidence et par conséquent d'opposition aux gouvernements en place.
Oui, c'était le cas exactement avec Lech Walesa pour le coup, puisqu'il n'avait pas pu non plus d'ailleurs sortir de Pologne pour venir lui-même recevoir son prix Nobel. Ça arrive assez régulièrement. On avait consacré une émission à Aung San Suu Kyi également.
Oui. À l'époque, elle ne pouvait pas sortir. C'est vrai que c'était, elle a eu le prix Nobel en 1986. Voilà. Elle ne pouvait pas sortir de Birmanie.
Exactement. Alors bon, ça, ce sont les dissidents. Il y a un certain nombre de récipiendaires, si je puis dire, qui eux sont récompensés pour une action concrète. Nous parlions de Kissinger l'autre jour, d'ailleurs.
Oui. Alors Kissinger a eu le prix Nobel de la paix en même temps que le négociateur vietnamien Lê Duc Tho pour avoir réussi à mettre fin à la guerre du Vietnam. Kissinger a accepté le prix Nobel, Lê Duc Tho n'en a pas voulu. Bon, voilà un exemple. Un deuxième exemple, un peu plus tard, c'est le prix Nobel qui est attribué à la fois à Rabin, l'Israélien, à Shimon Peres, l'Israélien, et à Yasser Arafat, pour avoir signé les accords d'Oslo en 1993. Et là, les trois récipiendaires ont accepté le prix Nobel, mais bien entendu, les ennemis d'Israël ont considéré que c'était une trahison, et les ennemis des Palestiniens ont considéré que c'était aussi une trahison. Ce qui veut dire que il y a une confusion des hostilités, mais malgré tout, c'est un geste de récompense. Ce n'est pas un geste qui favorise des dissidents, parce que ni Peres, ni Rabin, ni Arafat ne sont des dissidents dans leur propre camp, bien évidemment.
On comprend que ce prix Nobel sème quand même le trouble assez régulièrement. Et d'autant plus lorsque ce sont carrément des chefs d'État qui sont récompensés. Ça a été le cas un certain nombre de fois pour des présidents américains. Oui. Ça, j'allais dire, c'est votre domaine de prédilection. André Caspi, nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Imagine there's no heaven.
Imagine de John Lennon pour parler des prix Nobel de la paix cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez André Caspi, professeur émérite à la Sorbonne, auteur notamment de Barack Obama, La Grande Désillusion, paru chez Plon.
Barack Obama est donc, André Caspi, l'un des présidents américains à avoir été gratifié du prix Nobel de la paix. Il y en a eu d'autres, dont le célèbre Theodore Roosevelt.
Alors Theodore Roosevelt, lui, a eu le prix Nobel de la paix en 1906. Il était alors en exercice, puisqu'il a été président de 1901 à 1909. Il a eu le prix Nobel de la paix parce que il avait réussi à établir la paix entre la Russie et le Japon, et oui, qui se faisaient la guerre, et le traité de Portsmouth a été précisément l'œuvre de Theodore Roosevelt.
Il avait proposé ses bons offices, comme
voilà,
on dit.
Voilà, exactement. Alors Theodore Roosevelt, comme chacun sait, c'était le cousin éloigné de Franklin Roosevelt, il ne faut pas confondre les deux Roosevelt.
Oui, bien sûr, oui. C'est le grand chasseur, Theodore.
Voilà, c'est le grand chasseur. Le deuxième qui a eu un prix Nobel de la paix, c'est Woodrow Wilson. En 1919, il a été, lui, le créateur de la Société des Nations, et très curieusement d'ailleurs, créateur de la Société des Nations, il n'est jamais parvenu à y faire entrer les États-Unis, puisque les États-Unis n'ont jamais été membres de la SDN. Le troisième...
Ce qui n'est pas le moindre des paradoxes quand on sait que c'est le président Wilson qui avait quand même lancé tout ça.
Exactement, mais il a été désavoué. Le troisième, c'était Barack Obama, et puis il y a un président, par exemple, qui a eu le prix Nobel, mais après être sorti de la Maison Blanche, et bien après, c'est Jimmy Carter. Mmh. En 2002, Jimmy Carter a terminé sa présidence en 1981. C'est donc plus de 20 ans plus tard qu'il a bénéficié de cette récompense. Il y a eu aussi un vice-président, Al Gore, qui a eu le prix Nobel après avoir été vice-président, mais pour des raisons qui ne sont pas politiques, mais qui sont plutôt écologiques, parce que c'est un grand défenseur de l'écologie. Donc, et puis bien sûr Barack Obama en 2009. Alors, d'ici qu'un autre président des États-Unis bénéficie de la même récompense, pourquoi pas ?
J'ai l'impression qu'il y a, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a une sorte de tropisme américain. Il y a beaucoup d'Américains ou d'organisations américaines qui reçoivent le prix Nobel de la paix.
Oui, parce que c'est très étonnant, parce que si on regarde par exemple la liste des lauréats, on s'aperçoit que juste après la Seconde Guerre mondiale, vous avez des... par exemple, en 1947, la société des Quakers qui reçoit le prix Nobel de la paix. Auparavant, Cordell Hull, qui a été le secrétaire d'État de Franklin Roosevelt, a reçu le prix Nobel de la paix. En 1950, c'est Ralph Bunche, qui était le secrétaire général des Nations Unies, mais de nationalité américaine.
Ouais, ça fait beaucoup quand même. Hein,
il y a une sorte de, comment dire, de présence américaine particulièrement lourde dans les années qui suivent 1945.
George Marshall pour le plan Marshall, c'était quand même pas un grand pacifiste.
Alors,
George Marshall.
George Marshall a été un grand général.
Oui.
C'est lui qui est l'organisateur de la victoire américaine. C'était le supérieur hiérarchique d'Eisenhower ou de MacArthur, mais qui n'a jamais commandé sur le champ de bataille, parce que Franklin Roosevelt voulait le garder auprès de lui. Et après la mort de Franklin Roosevelt, il est devenu secrétaire d'État, il a été l'initiateur du plan qui porte son nom, et c'est à ce titre qu'il a été récompensé par le prix Nobel de la paix.
Oui, il faut d'ailleurs toujours lire les intentions du comité. C'est-à-dire qu'au moment où est remis le prix Nobel, où est décerné le prix Nobel, notamment le prix Nobel de la paix, il y a tout un texte qui explique les raisons qui ont déterminé, bien entendu, le jury.
Mais ce que je crois, c'est que cette présence américaine si forte entre 1945 et 1950 s'explique par les débuts de la guerre froide. Au fond, la Norvège a choisi son camp.
Eh oui.
La Norvège fait partie de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
Et elle est sur les franges de l'Empire soviétique.
Et la Norvège redoute en effet qu'il y ait à ce moment-là une invasion soviétique. La Norvège est donc pro-atlantique. Et cela explique sans aucun doute...
La Scandinavie d'une façon générale même, on peut le dire.
Ce qui explique sans aucun doute ce penchant du côté des États-Unis. De même que plus tard... c'est-à-dire au fond dans les années que nous vivons, la Norvège a tendance à se détacher de cet atlantisme et au contraire à revendiquer non seulement de l'indépendance mais aussi la volonté de soutenir les causes les plus fortes sur le plan moral et les plus faibles sur le plan politique.
Évidemment, le prix Nobel de la paix n'est pas décerné en fonction de la nationalité des gens. Il y a des gens de toute nationalité, même si certains continents sont moins servis que d'autres, si
oui,
je puis dire, notamment l'Afrique.
Il y a eu quelques Africains, notamment des Africains du Sud.
Oui, voilà.
Je pense à Monseigneur Tutu.
Desmond Tutu, oui.
Ou Nelson Mandela.
Oui.
Mais c'est vrai que les Africains ne sont pas très présents.
Non.
En revanche, à part les Américains, les Européens, bien sûr.
Alors voilà. Et parmi les Européens, c'est là que je voulais en venir, quelques Français quand même, qu'on oublie parfois.
Oui, évidemment, René Cassin,
certainement
le plus représentatif. Léon Bourgeois, il y a très longtemps, parce qu'il a été le premier président de la Société des Nations. Aristide Briand, dans les années 20, parce qu'il a contribué à la réconciliation franco-allemande.
Oui, et ses efforts en faveur de la paix, c'est toujours par définition.
De
ça, c'est normal, là, pour le coup. Ça n'a rien de surprenant.
Là, on peut pas le lier.
Plus surprenant, Léon Jouot, par exemple. Il faut expliquer qui était Léon Jouot.
Alors, Léon Jouot, c'était un syndicaliste. Et un syndicaliste qui a rompu avec le Parti communiste et qui a créé l'Union des syndicats libres. C'est cette union, en somme, dont fait partie Force ouvrière. C'est-à-dire que Léon Jouot, en 1947, reçoit le prix Nobel de la paix, mais ça fait partie, si l'on peut dire, de ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est en pleine guerre froide.
Mais voilà.
Et en conséquence...
Il faut aider un peu le syndicalisme non communiste,
voilà.
En fait.
Mais je ne pense pas qu'il y ait un plan sur de nombreuses années.
Non.
Non, c'est au fond, année après année, que le comité Nobel décide de soutenir telle ou telle cause.
J'aimerais qu'on finisse sur une belle figure, celle d'Albert Schweitzer.
Alors,
1952.
Alors, Albert Schweitzer, outre le fait qu'il était alsacien, avait surtout créé un hôpital à Lambaréné, c'est-à-dire au Gabon, et de ce point de vue-là, représente le côté le plus positif de la présence européenne sur le continent africain. Albert Schweitzer, en somme, c'est ce personnage un peu mythique qui jouait de l'orgue, mais qui soignait les pauvres et les malades du continent africain, et qui, en somme, de ce point de vue-là, a véritablement incarné la morale européenne, la volonté de faire le bien.
Je réalise, et ça n'a jamais été volontaire, bien entendu, qu'un grand nombre de ces prix Nobel de la paix ont fait l'objet d'émissions ici, au cœur de l'histoire. Finalement, ce sont de belles figures, généralement.
Alors, me permettez-vous de faire une suggestion?
Ah, mais allez-y, au contraire.
C'est que, dès que j'en aurai la possibilité, je suggérerai votre candidature.
Merci, André Caspi.
Au comité Nobel.
À mon avis, vous serez pris très au sérieux. Et de façon plus sérieuse, je voulais vous signaler que c'est un documentaire qui sort le 27 janvier prochain de Davis Guggenheim sur Malala Yousafzai, qui donc a été prix Nobel de la paix là en 2014. Vous savez, c'est cette jeune afghane qui a été blessée lors d'une attaque de talibans parce qu'elle militait pour l'éducation des filles. Eh bien, voilà, ce documentaire s'appellera He Named Me Malala, en français, Je m'appelle Malala. Merci beaucoup, André Caspi. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage chez Plomb, Barack Obama, la grande désillusion. Je ne sais pas si c'est prémonitoire.
Dans un instant, Franck, vous répondrez à la question de Mathieu qui veut en savoir plus sur les origines de l'appellation Oncle Sam pour désigner les États-Unis.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Mathieu à laquelle vous allez répondre. Une question qui nous vient de la page Facebook d'Au cœur de l'histoire. Il voudra en savoir plus sur l'appellation Oncle Sam pour désigner les États-Unis.
Eh bien oui, ça nous ramène à la guerre anglo-américaine de 1812, quand un certain Samuel Wilson était chargé du ravitaillement en viande des soldats. Et sur les caisses de viande qui arrivaient, il y avait écrit US. Ben, US pour United States, évidemment, pour les États-Unis. Sauf que les soldats, pour rigoler, ont traduit ça en Uncle Sam. US Uncle Sam, puisqu'il s'appelait Samuel Wilson. Voilà d'où ça vient au départ. Alors ensuite, vous savez qu'Uncle Sam a été littéralement personnifié, notamment pendant la Première Guerre mondiale, au moment où on a fait ces affiches pour recruter des soldats. Aujourd'hui, quand on dit Uncle Sam, Oncle Sam, c'est la personnification tout simplement de l'État américain. Voilà, qui était brièvement et clairement dit, n'est-ce pas?
Expédié, quoi.